Merci à toi, Gilles. Non, il fallait tout ça. Tu as fait le portrait d'un homme enraciné. Et ça va éclairer un peu ce que je vais dire maintenant en quelques mots sur Jean Donat comme historien de notre commune, Saint-Antonin. Je vais l'aborder d'ailleurs cet aspect en chroniqueur et non pas en historien que je ne suis pas. Et en sachant que le sujet est connu des plus anciens d'entre vous, puisqu'on a eu l'occasion de lire beaucoup d'articles de Jean Donat ici à Saint-Antonin. Je vais le faire en répondant à quatre questions successivement. Et la première, c'est comment est-ce qu'on trouve les travaux de Jean Donat? Où et quand a-t-il publié? Ça ne va pas tout à fait de soi, parce que il n'y avait pas encore de bulletin de la Société des Amis. Il y avait beaucoup de revues, il y avait des ouvrages qu'il a publiés ici ou là. Mais au fond, il n'y a pas un lieu qui rassemble tout cela. Il y a en revanche une somme qui est constituée de ces deux tomes que j'ai devant moi, qui ont été en réalité non pas édités, mais reliés par sa famille, par des membres de sa famille, qui ont rassemblé là, autant qu'ils ont pu, ses principaux écrits en prenant des originaux, des revues dans lesquelles ces articles avaient été publiés. Ils ne concernent pas tous Saint-Antonin, mais on voit tout de suite que la grande majorité quand même est consacrée à Saint-Antonin, alors même qu'il était originaire, on vous l'a dit, de La Rasée. Voilà. Et c'est donc une question qui se pose, de savoir où on trouve ses travaux. On vient de vous le dire, il était né au XIXe siècle, 1866, dans le Tarn-et-Garonne, à La Rasée. Il s'était marié à Saint-Antonin. Il avait exercé son métier de professeur d'histoire dans plusieurs villes du Sud-Ouest, pour finir au lycée de Toulouse. Je rappelle tout ça, tout simplement, parce que c'est évidemment dans les revues des sociétés savantes de son temps et de sa région qu'on trouve l'essentiel de ses publications consacrées à l'histoire de Saint-Antonin et de sa région. Je les cite rapidement sans trop entrer dans le détail. La plus connue, c'est peut-être la Société archéologique du Midi de la France, mais aussi la Société archéologique et historique du Tarn-et-Garonne. Ces deux sociétés savantes qui couvrent à la fois toute la région et le Tarn-et-Garonne, elles existent encore aujourd'hui. Et c'est dedans qu'on trouve la plupart des articles qu'il a écrits dans les années 10 et 20, et même encore dans les années 30. Il faut ajouter la Revue des Pyrénées, où il a écrit un article sur les eaux à Saint-Antonin, voilà qui ferait plaisir à Dominique Perchet. Et puis même, il a publié dans le bulletin de la Société de Géographie de Toulouse plusieurs des conférences qu'il a faites sur des thèmes qui se rapportent à l'histoire de Saint-Antonin. Plus tard, dans les années 30, c'est l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse qui l'accueille dans ses extraits de mémoire, comme ils disent. Dans les années 30, il y a tous les ans ou tous les deux ans des articles de Jean Donat. Et c'est aussi dans cette période des années 30, d'ailleurs, comme ça a été mentionné tout à l'heure, qu'il a entrepris de rédiger, sur la sollicitation du curé de Saint-Antonin et de son bulletin paroissial, une chronique de l'histoire de Saint-Antonin, en commençant principalement par l'histoire médiévale, et ça c'est une fresque très importante qui est aussi la reprise d'articles qu'il avait déjà fait, et donc c'est là peut-être qu'on a la somme la plus caractéristique de ce qu'il pense et de la manière dont il pense parler de l'histoire de Saint-Antonin. Il a aussi fait des ouvrages qui ont été publiés par l'Imprimerie nationale ou par Privas, ce grand éditeur de Toulouse. Tout ça, c'est donc pas très accessible. Il faut aller chercher dans les archives des revues que j'ai mentionnées, des sociétés savantes que j'ai citées, ou consulter cette compilation qui est là devant vous, dont on a pour le moment un seul exemplaire. Et il y a peut-être quelque chose d'autre à faire, bien entendu. Cette compilation a été faite, bien entendu, après sa mort, par la famille de Jean Donat. Quels sont les sujets? Deuxième question, quels sont les sujets qu'il a traités? La réponse est tout à fait simple, c'est l'histoire locale. Il n'a pas fait que celle de Saint-Antonin, il a commencé à La Rasée, et tout à l'heure, Jean Daziron va nous parler de cela, de sa démarche vers cela. Mais à Saint-Antonin, c'est encore l'histoire locale. Ce n'est pas de l'histoire contemporaine, ce n'est pas non plus de l'histoire ancienne, ni de la préhistoire. Il s'intéresse à l'histoire locale quand elle est documentée, mais pas encore suffisamment étudiée et publiée. Et ça définit assez bien les centres d'intérêt qu'il a trouvés. Si on regarde dans le temps, chronologiquement, son intérêt s'est d'abord porté, c'est ça, dans les années 10 en particulier, sur la période de l'Ancien Régime. Et il faut bien voir que l'Ancien Régime et la Révolution, dans cette période de la réflexion historique en France, c'était très au centre des grandes écoles d'historiens français et de leurs discussions et de leurs disputes. Donc c'est assez naturel qu'il se soit beaucoup intéressé à ça, l'Ancien Régime. Saint-Antonin comme siège d'une société politique et littéraire au XVIIIe siècle, il a fait deux articles là-dessus, il a fait un article sur l'instruction publique à Saint-Antonin aussi au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il s'est intéressé aux conditions de vie dans un village de province, toujours dans cette même période. Il n'a pas refusé de regarder des questions aussi concrètes que les salaires, les indemnités, les traitements dans une ville comme Saint-Antonin et même plus largement dans le Rouergue. Il est allé regarder l'abbaye de Beaulieu, son histoire, mais il a saisi l'histoire de l'abbaye de Beaulieu à travers son budget dans la période qui précède immédiatement la Révolution. Bon, voilà, c'est toute une série, et je ne suis pas complet là-dessus, mais il est très intéressé par tout ce qui est l'Ancien Régime. Ensuite, dans les années 30, il y a deux domaines qui émergent de ses travaux. L'un, c'est dans l'histoire moderne, c'est tout ce qui touche au protestantisme, au mouvement protestant et aux guerres de religion. Il y a un grand article de près de 200 pages qui s'intitule « Le mouvement protestant et l'édit de révocation à Saint-Antonin » qu'il a publié en 1935. Et il y a d'autres travaux de lui sur le siège de Louis XIII en particulier, qui a inspiré d'autres auteurs, y compris de conférences ici. Ça, c'est le premier thème qui l'a beaucoup intéressé. Et puis, il est remonté plus loin, il s'est intéressé à l'histoire médiévale. Ça, nous le savons, parce qu'il y a cet ouvrage qui est la production principale qu'il a faite sur l'histoire médiévale. Ça vient, en réalité, de la découverte des archives municipales de Saint-Antonin. Tout à l'heure, Georges Cosnier nous racontera peut-être un peu plus précisément cette histoire qui vaut d'être complète. Voilà, mais il a travaillé à cela jusqu'à sa mort. Il y a certains aspects de l'histoire médiévale de Saint-Antonin qu'il a creusé plus que d'autres, des épisodes comme un épisode clé de la guerre de Cent Ans, quand Saint-Antonin apparaissait comme la véritable place de guerre dans la région. Et toutes les stratégies militaires de cette première phase de la guerre de Cent Ans ont eu beaucoup Saint-Antonin comme objet. Et il prend la période où le parti des Anglais, comme on l'appelait, a fait une conquête progressive du Rouergue et de Saint-Antonin. Et il y a dans le bulletin de la Société archéologique du Midi de la France une étude fouillée sur ce sujet. Une autre étude très fouillée qu'il a faite dans cette période-là, qui concerne aussi le Moyen-Âge, c'est ce qu'il a appelé la topographie et le développement de Saint-Antonin au Moyen-Âge. Et là, vous avez une étude très très fouillée, qui a une quarantaine de pages et presque 10 pages de notes précises dans lesquelles il a fondé son travail d'étude de l'histoire de Saint-Antonin. Donc voilà pour ce qui est des sujets. Comment travaillait-il? Quelles étaient ses sources? C'est ma troisième question. Là, on pourrait presque dire que Jean Donat s'est voué à l'histoire locale de Saint-Antonin parce qu'il y avait abondance de sources locales, beaucoup d'archives municipales. C'est d'ailleurs chez lui une parenté qu'on doit reconnaître avec Georges Julien, dont nous avons déjà souvent parlé ici. Et comme c'est de l'histoire locale qui, dans son esprit, doit être reliée à une histoire plus générale, il ne néglige pas d'utiliser et de citer les sources plus générales ou plus global. Je vais juste donner deux exemples de cette démarche. Dans son article sur l'épisode des débuts de la guerre de Cent Ans que je viens de citer, qui est de 1936, presque à chaque page, on trouve la citation des sources locales, les archives municipales de Saint-Antonin, référencées précisément, qu'on pourrait les retrouver ici même, dans les archives municipales sur le souhait. Ici aussi, pour les actes notariaux, l'inventaire Philippi de la fin du XVIIIe siècle, qui est pour propriété des immeubles, évidemment une source essentielle. Mais il cite tout autant la grande histoire de France, de Lavis, l'histoire du Languedoc, de Moulinier, celle de Robert Latouche, les travaux de Moulin, je cite là des noms qui sont familiers de ceux qui ont fait des recherches dans ces domaines-là. Et aussi le récit du grand siège de Saint-Antonin par Moméja. Voilà, et d'autres monographies. Autre exemple, dans son article sur la topographie et le développement de Saint-Antonin au Moyen-Âge, qui a été publié en 1937, on est devant un travail qui est vieux maintenant depuis de près de 80 ans. Et donc ce travail, quand on le lit, on se dit qu'il mérite d'être rapproché et confronté avec des travaux ultérieurs. Je pense même à la thèse toute récente de Cécile Rivals, qui s'est intéressée au même sujet. Et là où cette dernière étudie et fiche les îlots et les maisons de Saint-Antonin, et va jusqu'à cette précision-là, Donat, lui, s'en tient à ce qu'il appelle la topographie. Il cherche les grands les grandes lignes de la topographie de la ville. Il cherche le château, il identifie le pont dans ses différentes configurations, les tours, les portes, les fortifications, les rues, les places, les canaux, les fossés. Il repère l'organisation des activités dans l'espace, les quartiers, qu'il appelle aussi les gâches, jusqu'aux hameaux et aux chemins. Il s'intéresse évidemment beaucoup aux dénominations, sujet dont notre association s'est beaucoup emparée d'ailleurs. Voilà, et dans ce travail, il y a presque autant de pages de notes que de pages de texte. Voilà, et c'est donc les archives de Saint-Antonin, plus celles du département du Tarn-et-Garonne, qui sont sa matière première. Donat, pour résumer, il n'a pas, comme l'avait fait André Vignol, traduit systématiquement ses sources du vieil Occitan, mais il pouvait les lire et les exploiter. Pour finir, un mot sur l'esprit dans lequel il accomplissait ce travail. Vous l'avez compris, il plaçait son travail sous l'enseigne de l'histoire locale, en privilégiant des sujets ciblés ou circonscrits. Et d'ailleurs, dans ce que Gilles Sainz vient de nous dire, vous avez peut-être noté son hésitation à s'engager dans un travail de fresque générale sur l'histoire médiévale de Saint-Antonin. Il préférait avoir des sujets qu'il pouvait maîtriser par la connaissance de l'ensemble des sources utiles. Donc il était plus dans un travail ciblé, il s'attachait aux détails et aux chiffres fournis par ses sources, qui étaient abondantes et abondamment travaillées. Mais malgré ça, dans le même temps, je dirais, Jean Donat s'est toujours soucié du sens général qu'il voulait donner à ses écrits. Je vais en donner deux illustrations. D'abord, ça se voit dans les conclusions explicites qu'il donnait à la plupart de ses articles. Par exemple, dans sa conclusion sur l'article sur le budget de l'abbaye de Beaulieu, la veille de la Révolution, il souligne, à l'issue d'une étude minutieuse, qui est apparemment centrée seulement sur les comptes de l'abbaye, 50 pages, les comptes sont annexés à son article, on est vraiment dans un travail de bénédictin, pour le coup, c'est le cas de le dire. Et ce qu'il souligne à la fin, dans sa conclusion, c'est un écart très important à ses yeux entre les principes d'austérité de la règle de Saint-Benoît, c'est une abbaye cistercienne, et le train de vie qu'il a observé, lui, 6 siècles plus tard, non seulement de l'abbé, mais aussi des 4 ou 5 moines qui étaient encore à l'époque à Beaulieu. Et il en tire une conclusion, alors beaucoup plus générale, celle-là, de décadence, c'est un mot qu'il emploie, de relâchement des monastères, qu'il n'estime pas particulier à Beaulieu d'ailleurs, et qui a ensuite facilité, pense-t-il, la progression des idées philosophiques de la fin du XVIIIe siècle dans toute la France. Donc voilà la façon dont il passait du détail au général et de ses analyses à ses conclusions. De même, dans ses études sur le protestantisme, il ne s'interdit pas des interrogations personnelles sur des causes de l'introduction du protestantisme à Saint-Antonin. Et ce qu'il en dit, je le résume, c'est quoi ? Un reste de catharisme et d'hostilité à l'Église catholique qui vient de loin dans notre région. Il cite aussi ce qu'il appelle l'appétit du divin pour une bourgeoisie enrichie. Saint-Antonin, à ses yeux, à la veille des guerres de religion, c'est encore une commune qui s'est beaucoup enrichie. Il cite aussi l'affaiblissement, le relâchement du clergé qu'il avait étudié par ailleurs. Il ne s'interdit pas des jugements de valeur. Par exemple, ceux parmi les protestants qui peuvent néanmoins placer en première ligne leur devoir civique. On sait à quel point cette valeur était importante, on l'a entendu à l'instant. Il parle aussi de la tolérance qui n'aurait en revanche pas été l'apanage des protestants s'ils l'avaient emportée. Donc vous voyez, il n'est pas du tout avare de jugements de valeur qui donnent l'impression d'un homme engagé. Et pourtant, tout cela ne fait pas de lui un historien engagé, bien sûr. Là où il est engagé, c'est plutôt sur le sens qu'il donne au travail d'histoire locale, qu'il veut toujours relier à une histoire globale. Il a même fait d'ailleurs un article sur ce sujet, et je suis sûr qu'Alain d'Aziron va nous parler de cela dans un instant. Dans toute son histoire de Saint-Antonin et les articles qui en traitent, on est en réalité dans une histoire de France illustrée localement. Je prends deux exemples de ça. Je reviens au récit des débuts de la guerre de Cent Ans. On voit très bien dans cet article qui est long, documenté, précis, fouillé, que son point de vue, eh bien, c'est le point de vue du roi de France, quand celui-ci reprend pied peu à peu en Rouergue. Et il nous raconte une histoire de France avec des illustrations ici, à Saint-Antonin et dans sa région. Et quand il met en perspective une histoire, c'est la perspective de l'histoire de notre pays, expression qui revient très souvent sous sa plume. Il le dit, les circonstances locales qu'il relate méritent intérêt, je le cite, parce qu'elles lui paraissent trouver place dans le cadre de l'histoire générale de notre pays, toujours notre pays. Et c'est le sens qu'il donne à l'histoire locale qu'il raconte. Je fais une autre citation de lui à la fin d'un de cet article sur la guerre de Cent Ans. Il parle de la fin de la guerre de Cent Ans pour décrire ce qu'il appelle, je cite, une évolution lente à travers les luttes, les agitations, les remous profonds de la crainte et de la misère vers des aspirations communes d'où se dégagera, en fin de compte, l'idée nécessaire d'une véritable solidarité nationale, premier aspect d'une patrie française. Là, vous trouvez des choses qui ont peut-être à voir avec ce qui a été dit tout à l'heure de sa vie pendant la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier qu'il est un homme qui s'est exprimé à une époque qui était entre deux guerres mondiales où la France était très engagée. Mais je pense quand même que ça raconte bien sa vision et de la France et de l'histoire. Et deuxième exemple, et ça c'est très cohérent avec ce que je viens de citer de lui, il tient le même discours lorsqu'il étudie, cette fois c'était à Larazé, les diverses catégories sociales et les conditions d'existence d'une communauté rurale du Sud-Ouest à la fin de l'Ancien Régime. C'est une conférence sur la vie de nos aïeux pour la Société de géographie de Toulouse. On doit retrouver ça dans l'article que va citer tout à l'heure Alain Desiron sur la communauté rurale. Et là, il parle de l'Ancien Régime et de la Révolution tout à fait dans les mêmes termes qu'aurait fait Tocqueville. D'ailleurs, je pense qu'il cite Tocqueville. Mais surtout, il parle de l'histoire de France vue sous son angle local, mais avec sa continuité historique, un peu comme l'aurait fait Michelet ou Lavis. Je le cite pour finir. Voilà la France qu'il voit à l'issue de la Révolution. Des vieilles institutions jetées dans le creuset rénovateur de 1789 est sortie une organisation homogène et unifiée qui est le couronnement de l'œuvre des générations antérieures dans l'édification d'une France une et indivisible. On ne peut pas parler de façon plus solennelle de l'histoire de France. Donc je conclus en disant que pour Jean Donat, l'histoire a un sens.